Moynihan Leiter, les oreilles loin du front à l'heure anglaise. Depuis que je suis passé de l'autre côté de la Manche, j'écoute les oreilles en décalé. Petit retour sur l'émission de la semaine dernière. Toujours pas d'invité en plateau et toujours pas de plateau pour cause de tout juste début de déconfinement. Pour cette 7e chronique confinée-déconfinée, je vous propose de lire un extrait de l'ouvrage de Marianne Dujarrier que nous avions reçu aux oreilles pour son ouvrage « Le management des incarnés, enquête sur les nouveaux cadres du travail » paru aux éditions La Découverte fin 2017. Cette circonstance, non ? Après tout, on présente cette crise comme celle qui a tué le travail tel qu'il était avant. On nous demande de changer, nous réinventer. Et certains imaginent déjà tout l'argent des loyers qu'ils vont pouvoir économiser grâce à la mise en place plus permanente du télétravail. Sans doute une des suites de cette crise plus réaliste que l'augmentation drastique des salaires des caissiers et caissières ou infirmiers et infirmières. Bref, Marianne Dujarrier est au panthéon de mes rencontres aux oreilles. C'est une sociologue du travail qui est professeure à Paris et écrit régulièrement des ouvrages sur ce sujet. Dans celui-ci, elle a enquêté sur un profil de salariés qui ont pris une énorme importance dans l'encadrement du travail. Elle les appelle les planeurs. Il s'agit en fait de l'armée de consultants ou de cadres qui, au sein des organisations, sont mandatés pour améliorer la performance de l'entreprise. Ils et elles traquent les poches d'inefficacité et inventent des process et dispositifs standardisés pour travailler de façon plus rentable. Dans l'extrait que je vais vous lire, elle explique comment ces planeurs arrivent à faire participer les salariés. Communiquer, inciter, faire participer, sanctionner. Les dispositifs ont des incidences sur le nombre de postes et leur localisation, mais aussi sur les cadences, les horaires, les pauses, l'exposition au risque, les rémunérations et les statuts d'emploi. Ils cadrent également la socialisation au travail, le niveau d'autonomie des individus et l'intérêt de leurs tâches. Les dispositifs qui visent à accroître la productivité et la marchandisation sont donc généralement accueillis avec inquiétude par les travailleurs, dont l'emploi, les conditions de travail et l'activité concrète sont ainsi mises en jeu. Les planeurs affirment de façon récurrente que les gens résistent au changement. Il est néanmoins difficile de leur faire préciser à quel changement les autres salariés résistent. Lorsque je leur demande s'il pourrait y avoir une résistance à une amélioration des salaires, ils rient en s'exclamant « Ah ben non, là non bien sûr ». Cette remarque signale que dans la formulation « résistance au changement », il manque l'essentiel, la nature du changement lui-même. Sans cette précision, les planeurs défendent la thèse d'une résistance générique, c'est-à-dire au fond idéologique. Ils accusent d'ailleurs régulièrement les autres travailleurs d'être accrochés à leur métier, à leur équipe, à leurs outils, à leur routine, à leurs conditions de travail ou à leur territoire. Ils jugent cet attachement mesquin et économiquement scandaleux. Il est souvent qualifié de manque de souplesse, d'adaptabilité, d'ouverture et parfois même de moralité. Leur rôle, d'après eux, est alors de mettre en mouvement ces salariés. Pour ce faire, disent-ils, il faut les motiver, les acculturer, voire les convertir. Les planeurs déploient alors 5 dispositifs d'enrôlement, généralement rangés sous le nom d'accompagnement au changement, ou en anglais de « change management ». Premièrement, les outils de communication et de formation visent à expliquer les vertus des dispositifs, ainsi que la manière de produire avec eux. On a une baisse de budget de 20%, il faut supprimer des postes. Nous, à la DRH, on s'occupe du côté humain. On va voir les chefs de service, on leur explique et on les aide à faire avec leur équipe, nous dit par exemple cette RRH. Les planeurs adoptent ici une posture toute didactique. Il faut prendre le temps d'expliquer, il faut faire de la pédagogie, disent-ils. Souvent, ils comparent les opérationnels à des enfants, à l'égard de qui il faudrait être un peu sévère et directif en même temps que pédagogue et patient. Et ce, pour leur propre bien. Les opérationnels ne se rendent pas compte de l'argent qu'ils dépensent. Ils croient que tout est possible. Faut leur expliquer, les cadrer, changer leur manière de faire. Sinon, ils font n'importe quoi. Expose ainsi un contrôleur de gestion avec une lassitude affichée. Les argumentaires principaux déployés par les plans de communication internes et externes font appel au bien commun. Survie de l'entreprise, sécurité, qualité, non-discrimination, responsabilité sociale de l'entreprise, etc. à la rationalité et à la fonctionnalité. Les dispositifs sont le plus souvent présentés comme un progrès pour tous. Le discours des planeurs, qu'ils soient managériels ou publicitaires, promet du développement personnel, de l'autonomie, de l'excellence, des liens sociaux renouvelés ou de l'efficacité. La rhétorique de l'amélioration, surtout si elle se fait morale, est alors difficile à contester. Comment refuser plus de qualité, plus de performance, plus d'innovation, plus de satisfaction client ou plus de bien-être au travail? Mais la communication seule ne peut pas suffire à modifier les représentations et les comportements. Il faut aussi inciter les travailleurs et les consommateurs à le faire, disent les planeurs. Pour convaincre les gens de changer, il faut leur proposer du gagnant-gagnant, assène ce DRH, convaincu. Alors les planeurs mettent en avant les avantages des dispositifs pour chacun des travailleurs, s'ils existent. Si besoin, ils en créent. Ceux qui coopèrent se voient alors promettre des primes et des mobilités intéressantes, par exemple. Troisièmement, les planeurs en appellent à la participation des salariés, surtout depuis les années 1980-90. Cette recherche de contact entre prescripteurs et travailleurs vise moins à réduire la méconnaissance du travail réel des premiers que de convaincre les seconds d'accueillir favorablement les dispositifs. Désignés aux volontaires pour représenter leur métier, leur lieu de travail ou leur génération, trois types de participants se distinguent alors. Certains voient dans ces réunions une occasion d'échapper aux contraintes opérationnelles tout en préparant une mobilité ascendante vers un poste de planeur. Ils défendent alors avec conviction l'idée de la participation. D'autres managers de proximité espèrent faire entendre leurs contraintes et leurs souhaits ou, lorsqu'ils sont plus critiques, limiter les dégâts, disent-ils. Ils recherchent des adaptations intelligentes du dispositif pour leur équipe tout en collaborant, malgré leurs doutes, à sa diffusion. Enfin, les opérationnels peuvent être contraints de participer à la mise en œuvre des dispositifs en décrivant leurs tâches, en fournissant des informations sur leurs horaires, leur productivité ou la qualité de leur travail, par exemple. Quatrièmement, la coopération des opérationnels est recherchée par une approche contractualiste. En effet, les planeurs proposent régulièrement de passer un contrat réputé objectif, clair et juste avec les opérationnels. Il s'agit d'un contrat moral, d'un contrat d'objectif, d'un contrat de service, d'un contrat de formation ou d'un contrat client-fournisseur interne, dans tous les cas sans valeur juridique. Selon eux, l'entreprise, mais pas eux personnellement, s'engage à respecter un certain nombre de droits et devoirs par ce contrat qui oblige en retour le contractant à des comportements précis. Les planeurs rappellent enfin avec insistance que les dispositifs ne pourraient être déployés sans un soutien explicite de la direction. C'est elle qui contraint les opérationnels, cadres ou non, d'assister aux réunions des planeurs. Les opérationnels doivent également, sous peine de sanction, accueillir les planeurs et leurs consultants pour leur fournir les informations qu'ils demandent. Ici, c'est l'argument d'autorité hiérarchique qui est mobilisé pour enrôler. Voilà. C'était donc un extrait de l'ouvrage de Marianne Dujarrier, « Le management des incarnés, enquête sur les nouveaux cadres du travail », paru aux éditions La Découverte fin 2017. Bonne émission ce soir. Depuis que j'ai lu l'article de votre invité, je piste les titres, les légendes et les sources de tous les graphiques qui pullulent de ce côté-ci de la Manche aussi. Bon, des fois ça part bien, il y a des dates, des sources, voire des notes explicatives avec des définitions. Mais dès qu'on se penche un peu plus sur le sujet, on réalise que ni les définitions, ni le festival d'acronymes, oui, ONS, DHC, CQC, PHE, bon, je vous l'ai fait sans accent, hein, mais c'est tout un tas d'organismes de statistiques, de santé, d'hôpitaux, de services sociaux, qu'il faut souvent décliner en Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord. Bref, c'est très compliqué d'avoir accès à une information claire et solide, alors même que ces chiffres sont mis en avant pour expliquer les mesures en place de confinement ou de déconfinement. Pour les dernières annonces, du coup, ils ont choisi de faire change sans chichi et sans détail, du coup. Les mesures sont basées sur des éléments scientifiques solides. C'est tout. Je disais donc bonne émission ce soir, à la semaine prochaine, et d'ici là, même confinée, I'm a Lears, enfin, je suis tous aux oreilles, quoi.